Bon alors, Nicolas Dobris, c'est un sceptique notoire. Vous le connaissez peut-être parce qu'il est membre de l'AFIS, l'Association française pour l'information scientifique. Vous le connaissez peut-être donc parce qu'il a écrit dans la revue de l'AFIS qui est Science et Pseudosciences. Vous le connaissez peut-être parce qu'il est actif sur Internet et notamment sur le groupe Facebook Zététique où il critique entre autres les dérives de la psychanalyse. Vous le connaissez peut-être encore parce que c'est l'intervenant le plus assidu sur le podcast, sur le balado de Jean-Michel qui s'appelle Scepticisme Scientifique. D'ailleurs, il vient de terminer une série passionnante sur les différences entre les sexes. Est-ce qu'il y a des différences ou pas entre les sexes ? Sinon, vous devez savoir qu'il nous vient de Paris, où il est, attention, chercheur en psychologie expérimentale à l'École pratique des hautes études. Alors, il a écrit plusieurs articles scientifiques, plusieurs livres. D'abord, peut-être, je vais commencer par celui-ci. Par Nicolas Gauvry, donc vous avez dit hasard entre mathématiques et psychologie aux éditions Belin, que je n'ai pas lu. Ceci dit, j'ai pas manqué de remarquer qu'il y avait plein d'images à l'intérieur.
Très bien pour les enfants.
Voilà, très bien pour les enfants. Ensuite, une critique de la psychanalyse, ou des psychanalyses même, qui a été écrite en collaboration avec Jeanne Variard, qui est là-bas à ma gauche, et publiée dans une édition intéressante qui est Bookie Book. Et si vous allez voir sur Internet, cette édition publie plein d'ouvrages en rapport avec la zététique. Alors, plein de sujets en rapport avec la zététique. Très intéressant. Mais encore plus intéressant, parce que j'ai presque fini de le lire, il me restait 20 pages avant d'arriver, mais je n'ai pas réussi à les terminer. Statistiques, méfiez-vous. Où il critique les usages, les mésusages qu'on peut faire des statistiques, des graphiques et des sondages dans les médias. Donc, si vous avez adoré, comme beaucoup d'entre vous, le livre de Norman Baillargeon, que Jean-Michel avait conseillé pendant tout un moment, qui était le béaba de l'initiation au scepticisme scientifique, vous allez adorer celui-ci, parce qu'il regorge de trucs et astuces pour découvrir comment on nous gruge dans les médias quand on parle de chiffres, quand les chiffres interviennent. Alors oui, évidemment, si vous avez des amis journalistes, il faut absolument leur offrir ce bouquin. Ce ne sera pas de trop. Le dernier en date, Les surdoués ordinaires, que j'ai vraiment adoré, parce que non seulement on parle d'intelligence, comment mesurer l'intelligence, qu'est-ce que c'est l'intelligence, quels sont nos préjugés à l'égard des personnes à haut potentiel, etc. Mais en plus de ça, dans ce livre, vous allez trouver toute une série de considérations sur la manière de faire de la bonne science. Comment distinguer la bonne science de la mauvaise science? Il y a quelques remarques, c'est pas le sujet du livre, mais en fait, tout au long du livre, il y a quelques remarques comme ça, épistémologiques, qui sont vraiment bienvenues. Donc ça, c'est le tout dernier du mois de mai, en fait, ce mois-ci. Et évidemment, il publiait plein d'autres livres. Le précédent, c'était Culture au mix, mais celui-là, je ne l'ai pas. Et voilà, donc c'est pour ça que je suis très heureux d'accueillir Nicolas parmi nous aujourd'hui. D'autant plus qu'à côté de son activité scientifique, autour de l'interface entre psychologie et mathématiques. C'est par ailleurs quelqu'un qui, et ça se voit dans ses livres, a un humanisme, une pédagogie, une simplicité qui manque souvent et qui fait envie. Voilà. Et donc aujourd'hui, une conférence sur laquelle je ne dirai rien parce que, comme vous, j'ignore de quoi ça va parler, sur la révolution bayésienne, le cerveau probabiliste. Et donc Nicolas, je te cède la parole pour nous introduire à ce nouveau sujet.
Eh ben. Ça met la barre haut, ça. Alors, oui, le titre officiel, c'était La Révolution bayésienne. Donc.
Ouais.
Voilà, j'ai essayé de trouver un titre plus simple qui dit à peu près la même chose. Ça donnait ça. Le cerveau probabiliste. Je suis pas sûr que ce soit si simple que ça. Mais... ce que je vais essayer de vous résumer brièvement, c'est. Je vais vous donner des pistes pour aller chercher plus loin après si ça vous intéresse. C'est une révolution de 30 ans en psychologie, qui a commencé il y a 30 ans, on peut dire à peu près, sur la manière de considérer la pensée, la manière dont on pense, c'est en psychologie cognitive plutôt. Je vais vous dire tout de suite l'idée générale de cette révolution, ce qui a changé là-dedans, et puis pourquoi on peut appeler ça une révolution. Mais avant, peut-être, je vous dis pourquoi je pense que ça peut intéresser des sceptiques. Parce que ce changement de paradigme, comme on dit, on parle aussi de nouveau paradigme, ça donne une nouvelle manière de voir, par exemple, les croyances irrationnelles, pourquoi les sophismes fonctionnent, etc. On verra des exemples un peu plus loin. Mais enfin, l'idée générale qui va ressortir de ça, c'est que finalement, parfois, ce qui paraît être des idées ou des croyances complètement irrationnelles sont rationnelles, mais dans un autre cadre, celui du nouveau paradigme. C'est pas forcément réjouissant, du coup, parce qu'on se demande comment on pourra bien changer ça. Alors, l'idée générale de cette révolution lente, c'est que, autrefois, je prends l'exemple de l'argumentation des croyances. Donc, si on essaie de comprendre comment les gens sont convaincus par des arguments, par exemple, assez souvent, on s'aperçoit que des arguments complètement fallacieux, sont illogiques au sens de la logique mathématique, sont très convaincants. Et autrefois, on disait, ça, c'est des erreurs. Et en fait, l'image qu'on avait en tête, c'était que le cerveau, c'est un ordinateur qui fonctionnait comme un ordinateur, avec le vrai, le faux, voilà, comme en maths, qui faisait des calculs logiques, mais qui faisait des erreurs logiques. Et ce qu'on pense maintenant, plutôt dans le nouveau paradigme, donc c'est ça la révolution bayésienne, c'est qu'en fait, le cerveau ne fait pas tellement d'erreurs, c'est que ce n'est pas un ordinateur, il n'est pas fait pour calculer avec vrai et faux, il est fait pour calculer de manière probabiliste. Et alors, dit comme ça, on se dit que ça ne va pas changer grand-chose, et en fait, ça a quand même énormément d'effets, et je vais préciser un petit peu ici d'abord où vous pouvez trouver beaucoup plus d'informations là-dessus, et également, encore une fois, pourquoi on peut appeler ça une révolution. Voilà où vous pouvez trouver beaucoup plus d'informations. Stanislas Dehaene, qui tient la chaire de psychologie cognitive expérimentale au Collège de France, fait chaque année à peu près 10 heures de cours de très haut niveau et qui sont en ligne, vous pouvez les trouver très facilement, vous tapez Stanislas Dehaene Collège de France et vous tombez sur ses cours en ligne, et chaque année il change de thème. Il y a eu une année la conscience, je crois, comment trouver avoir des traces neuronales de la conscience, par exemple, c'est un de ses thèmes. Et sur cette révolution bayésienne, il a passé 2 ans, tellement il trouvait ça important. Il a expliqué, au début, si vous avez regardé, dans le début des cours, il explique pourquoi on peut appeler ça la révolution bayésienne. Alors, révolution, pourquoi ? Parce que ce changement de manière de voir, c'est un fait extrêmement rare, dit-il, en psychologie, a des répercussions dans plein de domaines de la psychologie. C'est-à-dire qu'à la fois, on réinterprète autrement des choses qui se passent au niveau neuronal, on interprète autrement des illusions d'optique, par exemple, donc, des choses perceptives. Et puis on peut monter comme ça avec des fonctionnements mentaux de plus en plus hauts jusqu'au raisonnement, à l'argumentation. Et donc, je vais vous montrer quelques exemples. Évidemment, ça va être un peu pointilliste parce que, donc je vous dis, 20 heures de cours extrêmement dense pour raconter ça, et moi je vais faire en 30 minutes. Donc je vais vous donner quelques exemples comme ça. Voilà pourquoi il appelle ça une révolution. Après, bayésien, je précisais un petit peu tout à l'heure, mais en première approximation, bayésien, ça veut dire probabiliste. Ouais. La révolution bayésienne, on peut dire ça, c'est le changement qui dit que finalement, le cerveau, ça ne marche pas comme un ordinateur qui déconne, ça marche comme un calculateur probabiliste qui fonctionne bien. Alors évidemment, ce n'est pas parfait, parce qu'on a une mémoire limitée, mais ça fonctionne quand même bien. Et alors, je vous dis, cette manière de voir, ça a des répercussions au niveau... Alors, je ne vais pas vous parler de neurones, parce que j'y connais rien, mais au niveau de la perception, déjà, donc des niveaux assez bas en psychologie expérimentale, si on raisonne comme ça... On a d'autres explications de certaines illusions. Je vous en donnais quelques-unes ici. Voilà un truc assez classique. Alors quand vous voyez ça, en fait, c'est une image en 2 dimensions qui bouge, hein, stimulus plan. Et vous voyez quelque chose en 3D. Et peut-être que tout le monde ne voit pas la même chose. Moi, je vois la danseuse tourner dans ce sens-là, par exemple, sur les aiguilles d'une montre par au-dessus. Mais en fait, c'est tout à fait compatible avec le sens inverse. Et alors, selon les personnes, si vous concentrez, vous pouvez arriver à faire tourner la danseuse dans l'autre sens ou pas. Moi, j'y arrive pas. Bon, je ne suis pas très doué, pardon. Il y a plein qui arrivent. Mais j'arrive pas. Ça tourne toujours dans le même sens. Voilà, alors, comment on interprète ça maintenant ? Eh bien, on se dit qu'entre l'image qui arrive sur l'œil et puis la perception qu'on en a quand ça arrive à la conscience, ça, on le savait déjà depuis très longtemps, il y a énormément de traitements. Il y a tout un traitement de l'image. On va avoir des exemples beaucoup plus frappants juste après. Et dans ces traitements, en fait, il y a ce qu'on appelle des décisions, bayésiennes, qui sont en fait des calculs probabilistes pour, parmi différentes interprétations possibles, fournir ce qui est a priori la plus probable. Donc ce qui se passerait, c'est ce qu'on dit maintenant dans le nouveau paradigme, dans la partie du cerveau qui s'occupe des images, c'est que plusieurs hypothèses sont possibles. Alors peut-être que c'est juste une image comme ça qui se déforme et qui est plane, c'est pas ça qu'on voit. Et si c'est en 3D, peut-être que ça tourne dans ce sens-là, peut-être dans l'autre. Et il y aurait un calcul probabiliste, inconscient, qui renvoie à la sortie l'interprétation la plus probable. Un autre exemple, on comprend un peu mieux ce qui se passe, c'est celui-ci, aussi très classique. Alors, normalement, si vous êtes comme moi en tout cas, vous voyez ici des bosses, et puis là des creux. Déjà, a priori, une image comme ça, ça pourrait être une image plane, on la voit en 3D. Mais on voit des bosses au-dessus et des creux en dessous. Et en réalité, on pourrait avoir l'interprétation inverse. Ça, ça pourrait être des creux et ça, des bosses. Et on s'en aperçoit quand on le tourne, faire un demi-tour, et peut-être que vous avez vu à un moment, les creux deviennent des bosses et les bosses deviennent des creux. Et là, pareil, ça peut s'expliquer avec un calcul probabiliste. Il y a plusieurs interprétations possibles de l'image, mais si vous considérez que ça, c'est un creux, ça veut dire que la lumière vient d'en bas. Si vous considérez que c'est une bosse, ça veut dire que la lumière vient d'en haut. Comme habituellement, la lumière vient plutôt du haut, c'est assez rare que les choses soient éclairées par en dessous, notre cerveau interprète ça en disant « la lumière doit venir du haut, donc le plus probable, c'est que ça soit une bosse et que ça soit un creux. » Voilà un exemple qui ressemble un petit peu aussi. Vous allez voir, que peut-être vous avez déjà vu ça. Donc c'est un masque de Chaplin, jusqu'ici ça va très bien. Et il se passe un truc bizarre quand ça passe de l'autre côté. Là, vous voyez le creux. Et au bout d'un moment, normalement, vous voyez un masque qui va vers l'avant et qui tourne dans l'autre sens. Dès qu'il n'y a pas assez d'indices, là, on revoit le creux. En fait, il y a un moment où il n'y a pas assez d'indices pour que, avec un calcul probabiliste, on puisse dire « probablement, c'est en creux ». Et comme a priori, quand on voit un masque, il n'est pas en creux, un visage en général c'est pas en creux, il faut beaucoup d'indices pour pouvoir calculer la probabilité inverse. Voilà. Donc il repasse une fois. Donc voilà encore quelque chose qu'on peut interpréter comme ça en termes de décision probabiliste inconsciente. Celui-ci est pas mal aussi parce que il montre les traitements qui peuvent se produire aussi au niveau visuel. Si vous fixez la croix qui est au milieu, normalement, au bout d'un moment, vous voyez un point vert qui tourne. Peut-être qu'il faut être bien placé. Alors, on voit plus les points violets, normalement ils sont roses. Et on voit à la place un point vert qui tourne. Et dès qu'on bouge le regard, on revoit à nouveau l'image réelle, donc avec les points roses ou violets de départ. Alors comment on peut interpréter ça? Eh bien, de la manière suivante, sur la rétine, il y a plein de saloperies, il y a des petits vaisseaux sanguins, il peut y avoir des taches. D'ailleurs, des fois, on voit des petits traits, des petits points, des choses comme ça. Il y a même un endroit quelque part, on ne s'en rend pas du tout compte où on ne voit rien, un point aveugle quelque part. Et le cerveau essaie de corriger ça. Et donc, pour corriger ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut distinguer ce qui est une tache sur la rétine de ce qui est vraiment dans le monde. Quand vous fixez la croix au milieu, toutes les taches qui sont ici sont immobiles. Une tache rouge comme ça, un peu floue, immobile, sur la rétine, ça ressemble plus à un petit vaisseau sanguin que répété ou quelque chose comme ça, donc à une tache qui est vraiment dans l'œil, qu'à quelque chose qui est dans le monde. Dès que vous bougez les yeux, la tache bouge sur la rétine. Et si elle bouge sur la rétine, ça devient beaucoup moins probable que ce soit une tache sur la rétine, évidemment. Surtout si ça correspond à un point fixe dans l'espace. Donc voilà comment on explique ce genre de choses. Après, alors j'avais pas pensé à ça, mais il y a du son normalement, on va voir si ça suffit. Sinon c'est pas grave, vous me croirez, je vous raconterai. Un dernier effet, qui là fait intervenir à la fois l'image et le son. On va voir si ça suffit. Ça s'appelle l'effet McGurk. Vous l'avez déjà vu, peut-être avancé un peu. It seems easy enough to separate the sounds we hear from the sights we see. But there is one illusion that reveals this isn't always the case. Ba, ba, ba.
Have a look at this. What do you hear?
Ba, ba, ba. Ba, ba, ba.
But look what happens when we change the picture.
Ba, ba, ba. Ba, ba, ba.
Donc si vous avez compris, en fait, la bande son est toujours la même. C'est toujours le même son qu'on entend. On a juste changé l'image encore. Je sais pas ce que je fous là. C'est seulement l'image qui a été changée. Et normalement, si vous entendez suffisamment bien, vous n'entendez pas la même chose. C'est-à-dire qu'au début, on entend plutôt bas. Et puis, quand l'image correspond à un fa, on a un tantôt fa.
The sound hasn't changed. In every clip, you are only ever hearing ba with a b.
Ba.
Ok. Alors.
Ba.
Ça, dans l'ancien paradigme, on peut dire, hein, quand on n'avait pas cette représentation probabiliste des calculs dans le cerveau, on interprétait en disant en fait il y a l'information auditive qui arrive et qui nous dit que c'est ba, par exemple, si c'est ba. Et puis, quand il y a une contradiction et qu'on voit le personnage dire fa. Il y a l'information visuelle qui est en contradiction avec l'information auditive. Et puis, pour une raison qu'on ignore, c'est l'information visuelle qui prend le dessus. Alors ça peut paraître un peu bizarre de dire que l'information visuelle prend le dessus sur l'information auditive. Maintenant qu'on voit tout de manière plutôt probabiliste, ce qu'on se dit, c'est qu'en réalité, l'information auditive qu'on a n'est pas suffisante pour savoir exactement ce qui est prononcé. Il y a toujours de l'incertitude. Et donc si vous fermez les yeux, vous entendez bien la bonne syllabe quand même, parce que même s'il y a de l'incertitude, votre cerveau est capable de décider que quand même le plus probable, c'est que c'est bas, par exemple. Mais ce n'est pas une certitude, en fait. On a l'impression que c'est une certitude parce que ça a déjà été sélectionné par le cerveau à partir de calculs probabilistes. Si on rajoute une information visuelle qui, elle, est plus fiable, avec une probabilité plus élevée, que ce soit fa, quand on regarde le personnage dire fa, la probabilité élevée que ce soit fa qui vient par le canal visuel suffit à contrer donc l'information auditive qui, elle, est peu fiable. Ça va ? Je perds personne ? Voilà. Alors ça, c'était quelques exemples donc, sur la perception. Je vous ai dit, en fait, ce nouveau paradigme, cette manière de voir le cerveau comme un calculateur probabiliste, ça intervient dans plein de domaines. Je ne vais pas vous parler de beaucoup de domaines, mais il n'y a pas que ce que je vous présente ici. Il n'y a pas que la perception. Là, on va parler un peu de choses un peu plus directement probabilistes et de raisonnement un petit peu après. Quelque chose qu'on appelle le scandale de l'induction, c'est le fait qu'on arrive à déduire tant de choses à partir de si peu. Et oui, c'est assez étonnant que, par exemple, pour des informations, des sujets pour lesquels on a très peu d'informations, on arrive en général à répondre correctement quand on nous demande de deviner des probabilités ou des statistiques. Par exemple, des psychologues avaient demandé à des gens tout venant de deviner combien de personnes en pourcentage utilisaient du papier de toilette triple épaisseur. Ils ont regardé ensuite. Donc on a très peu d'informations là-dessus. Il y a des décalages par rapport à la réalité quand on répond. Notamment, on a plus tendance à répondre ce qu'on fait nous. Mais ce qui ressort de ça, et comme tout à fait étonnant, c'est qu'en général, l'estimation que les gens donnent est assez réaliste. C'est pas la bonne, mais enfin, c'est pas très loin. C'est pas complètement absurde. Et donc, on se demande comment on peut tirer autant de choses de si peu d'informations. Parce que qu'est-ce qu'on a comme information intuitivement là-dessus, ce que nous on fait, peut-être ce qu'on voit dans les magasins, et puis 2-3 personnes chez qui on va aux toilettes, enfin, ça fait pas beaucoup de monde. Voilà. Et pour manière très générale, comme ça, souvent, les stéréotypes qu'on a, pas toujours, mais assez souvent, se justifient statistiquement. On vérifie, finalement. On est très doué pour faire des statistiques, de manière très intuitive. Alors, quand on essaye de le tester de manière expérimentale, peut-être pour faire le lien, je veux parler aussi, évidemment, d'un domaine où c'est très étonnant, ce scandale de l'induction, c'est l'apprentissage de la langue chez les enfants. Les enfants sont capables d'apprendre un mot qu'ils ont entendu une fois. Et ça arrive très fréquemment. Il y a une période de la vie où ils apprennent plusieurs mots par jour. Et des mots qu'ils ont entendus une fois, ils sont capables de comprendre ce que ça veut dire. On leur dit ça c'est un chien, par exemple, et ils ont compris ce qu'était un chien. Donc on leur a montré un chien, ils sont capables de reconnaître un autre chien. Ils surgénéralisent pas. Ça arrive bien sûr. Mais globalement ça marche quand même pas mal et on arrive à comprendre le sens d'un mot. Pour le tester expérimentalement, il y a eu cette expérience publié en 2011. Et Touffa, alors malheureusement, il y a les réponses ici. Mais enfin. Donc voilà l'idée. On vous présente ça, c'est un ensemble d'objets, ou de plantes, ou que sais-je, qui ont été trouvés sur une planète. Et on vous dit, voilà, trois objets, c'est les trois en rouge là, qui s'appellent des touffas. Et il faut dire lesquels autres sont des touffas. Et donc vous pouvez regarder les réponses des gens, c'est ce qui est entouré en gris. Et presque tout le monde répond ça. Donc on est presque tous d'accord pour savoir jusqu'où on va généraliser pour dire ce que c'est que les touffas. Voilà, ce qui est assez étonnant. Alors il y a des cas, j'ai regardé tout à l'heure, il y a des cas où on retrouve des éléments, peut-être comme ici, ou celui-là, la tête est pareille. Donc là, ça peut s'expliquer. Mais celui-là, par exemple, je crois aucun élément qu'on retrouve directement dans les autres. Et pourtant, il est classé dans les touffas. Voilà, et on ne sait pas, c'est pas vraiment conscient, on sent comme ça qu'on va classer ça. Voilà, ça montre un peu une forme d'intuition statistique qu'on partage tous et qui permet de généraliser et donc de faire de l'induction. Et des chercheurs ont voulu savoir si, parce que si on a un cerveau probabiliste qui est fait pour faire des calculs probabilistes, on devrait être capable très jeune de montrer des compétences en probabilité plus ou moins. Alors ça a été testé, je vais vous montrer deux choses. Le premier test, c'est celui-ci. Donc ça vient d'un article de Teglas. Il s'agissait de tester chez des enfants de 1 an des capacités en proba. Donc on leur a fait remplir des questionnaires. Non, bien sûr, on ne peut pas. Donc, alors comment on fait? Je vais raconter, c'est marrant la manière dont on procède. Voilà, vous avez des urnes comme ça avec des billes. Bon, je prends par exemple ici, hein, rouge, beaucoup de rouge et puis un peu de bleu. Voilà, on montre ça, on secoue l'urne, on la retourne et il y a une bille qui tombe. Et on veut savoir si quand la bille qui tombe est rouge, l'enfant est moins étonné que si la bille qui tombe est bleue. Et pour ça, ce qu'on fait très souvent, ce qui a été fait ici, c'est qu'on mesure le temps de fixation. C'est-à-dire combien de temps les enfants regardent, ils ont 1 an, combien de temps ils regardent la scène. Et plus ils regardent longtemps, plus on se dit qu'ils sont étonnés. Et donc que c'était peu probable pour eux. Et donc ce que montraient Teglas et ses collaborateurs dans cette étude, c'est que non seulement effectivement... Quand c'est improbable, donc si ici c'est un bleu qui tombe, les enfants vont regarder plus longtemps que si c'est un rouge qui tombe, mais que même il y a une relation presque linéaire, en fait affine, entre le temps de fixation, c'est-à-dire le temps que les enfants regardent la scène, et la probabilité de l'événement qui se produit. C'est-à-dire que si au lieu de faire ça, voilà, si je fais sortir une bleue d'ici, ça va être assez étonnant, donc les enfants vont regarder assez longtemps, mais s'il n'y avait qu'une seule bleue, ils regardent encore plus longtemps. S'il y a deux bleus, ils regardent un peu moins longtemps, etc. Voilà, et c'est pas la couleur qui joue, c'est pour ça que j'ai mis les deux pour montrer. Ça marche aussi dans l'autre sens, hein, ils sont pas juste étonnés par la couleur bleue en général. Ça montre chez des enfants de 1 an, donc, des compétences, si on veut, en probabilité. Mais ça, c'est les probabilités à l'endroit. Ça, c'est les probabilités logiques, les plus simples. On a une urne avec le truc classique, quoi, du collège, du lycée. Une urne avec des boules rouges et bleues, et puis on se demande quelle est la probabilité de tirer une boule rouge. Voilà. Mais il y a plus compliqué que ça. Et c'est pour ça qu'on parle de révolution bayésienne. Parce que ce qu'on fait souvent, nous, dans la vie, c'est pas essayer de trouver la probabilité des conséquences en fonction des causes, c'est l'inverse. On observe des conséquences, et on se demande quelle est la probabilité que ça vienne de telle ou telle chose. Ça, dit une probabilité à l'envers. Non, pour simplifier, quand on parle de probabilité à l'envers, comme ça, donc probabilité des causes, au lieu d'avoir la probabilité des conséquences, c'est ce qu'on appelle le bayésianisme. Voilà pourquoi révolution bayésienne. Et ça a été testé et mis en évidence chez des enfants de 8 mois. Donc je vous explique un peu la situation dans cette expérience. Vous avez là, les enfants étaient habitués, et donc ils savent que dans cette boîte opaque, il y a une urne, qui, elle, n'est pas opaque, et quand on ouvrira, ils verront s'il y a beaucoup de billes rouges ou beaucoup de billes blanches. Ouais. Donc au début, c'est fermé, l'expérimentateur est devant l'enfant, les yeux fermés, et puis il sort des billes, comme ça, on sort 5, et vous voyez, on obtient 4 rouges et une blanche. Et ensuite, on ouvre devant, il y a deux situations, soit quand on ouvre, on obtient ça, soit on obtient ça. Voilà. Et vous voyez, évidemment, que si on a tiré 4 rouge et une seule blanche, il est plus probable que ça vienne de cette urne-là que de celle-ci. Et effectivement, les enfants regardent moins longtemps cette situation-là que celle-ci. C'est un peu le même principe que tout à l'heure. Mais ça, en probabilité, si vous avez des souvenirs de probabilité, c'est un peu plus compliqué à calculer. C'est beaucoup plus sophistiqué que le truc d'avant. C'est pas juste des fréquences. Voilà, donc finalement, les enfants auraient, très jeunes déjà, des compétences, en quelque sorte, en probabilité. Les règles des probabilités, et notamment ce qu'on appelle la règle de Bayes, ce qui permet de calculer ce qu'on vient de voir, hein, c'est la probabilité de l'urne en fonction de ce qu'on a observé, de ce qu'on a sorti de l'urne, je ne vais pas du tout détailler, mais ça automatise le rasoir d'Occam. Ce qui veut dire, rasoir d'Occam, vous savez ce que c'est ? C'est le fait qu'on va privilégier les hypothèses les plus simples. Et donc, ça a pour conséquence donc, qu'on va privilégier les hypothèses les plus simples. Alors, voilà une expérience. Celle-ci, elle n'est pas dans Stanislas Dohan parce qu'elle est en cours, elle n'est pas encore publiée. Une expérience qui a été faite pour voir ça, c'est un peu un téléphone arabe. Voilà comment ça marche. Ici, vous avez une sorte de grille de 10 cases sur 10, et dessus, on a placé 12 jetons. Donc ça commence, regardez juste la colonne du haut, complètement à gauche. On a cette grille-là. On montre cette grille à un enfant, on la fait aussi avec des adultes, pendant 10 secondes. Et puis on lui donne 12 jetons, une grille vierge, et il doit replacer les points comme c'était dans la première. Au deuxième candidat, un autre enfant ou un autre adulte, on montre la deuxième grille, et on lui demande de la reproduire, ça donne ça, et ainsi de suite. Donc ce qui est assez visuel, pas besoin d'expliquer plus, c'est que quand on fait ça, on va vers des choses de plus en plus simples. Et où il y a de moins en moins d'erreurs. Vous voyez que ici, c'est exactement la même chose que là, et il y a des chances que ça reste là si on continue. Voilà, on va vers des choses de plus en plus simples comme ça. Comment on explique ça maintenant, le lien avec le nouveau paradigme? Peut-être avant, ce qu'on aurait dit, c'est ben, quand on essaye de se souvenir ici, on fait des erreurs parce que la mémoire n'est pas infaillible. Et donc on a codé toutes les cases où il y avait des trucs, puis bon, il y a des hics, et ça pose problème. Maintenant, on dit plutôt, la mémoire, en fait, c'est un processus de reconstruction. C'est, on voit les points, en fait, on n'a pas les points en tête, on n'a pas les coordonnées des points, on a simplement des informations un peu floues, pas très fiables, sur les points. On essaie de reconstruire l'image à partir de ces informations. Et comme les informations ne sont pas tout à fait fiables, eh bien, en fait, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr de où sont les points. Et quand on n'est pas sûr et qu'on doit choisir entre plusieurs hypothèses, c'est ce que je disais juste avant, si on utilise les principes des probabilités, on va aller vers quelque chose de plus simple, c'est-à-dire plus structuré. Voilà. Et alors ça, c'est fait, pour la petite histoire, même si c'est un peu loin de tout ça, c'est fait pour essayer de comprendre comment le langage arrive à avoir des règles. Et on se dit que peut-être c'est par transmission que les règles apparaissent, parce que quand on transmet la grammaire, eh bien, ça se simplifie parce qu'il y a des erreurs qui sont faites et qu'en général les erreurs qui sont faites vont vers plus de simplicité. Voilà, il y a aussi plein de choses donc sur je parle d'argumentation, sur la logique. J'arrive un petit peu vers peut-être ce qui intéresse plus quand on est sceptique. Donc ça, c'est juste un exemple pour vous montrer l'importance que ça peut avoir de considérer les choses de manière probabiliste plutôt que classique. Juste la manière dont on comprend l'implication. Ça c'est dire A implique B, ou alors si A, alors B, et l'exemple classique qu'on donne, c'est s'il pleut, je prends mon parapluie. Voilà. En logique classique, donc comme on comprend les choses en maths, par exemple, ça c'est la même chose que soit B est vrai, soit A est faux. Donc avec s'il pleut, je prends mon parapluie, ça veut dire soit je prends mon parapluie, soit il ne pleut pas. Ce qui veut dire que, par exemple, s'il ne pleut pas et que je ne prends pas mon parapluie, eh ben, ça confirme la règle, s'il pleut, je prends mon parapluie. Alors que intuitivement, quand on se demande est-ce que quand il pleut pas et que je ne prends pas mon parapluie, ça confirme que quand il pleut, je prends mon parapluie, on se dit ça n'a juste aucun rapport. Il n'y a pas de rapport. Parce que s'il pleut, je prends mon parapluie, ça ne dit rien sur les situations où il ne pleut pas. Ça va ? Ok. Donc voilà, ça c'est la version classique, mais vous voyez qu'en fait, cette version classique, ça ne correspond pas du tout, et là il y a vraiment plein d'arguments pour montrer que ça ne correspond pas du tout, à la manière dont les gens comprennent l'implication en réalité. Et quand on regarde les choses de manière probabiliste, Et donc on essaie de comprendre comment les gens interprètent. S'il pleut, je prends mon parapluie. On arrive à... Là, on a une formule, mais enfin, l'idée est toute simple, c'est que on ne cherche pas à savoir si ils vont répondre oui, c'est vrai, ou non, c'est faux, puisqu'on dit non, ça ne marche pas comme ça, c'est pas oui ou non. C'est en termes de probabilité. Donc, quelle est la probabilité que, s'il pleut, je prends mon parapluie? Pour y répondre, on imagine qu'il pleut, et on cherche, dans cette situation, si je prends souvent ou pas mon parapluie. Si je prends très souvent mon parapluie quand il pleut, je vais dire oui. S'il pleut, je prends mon parapluie. Si je prends très rarement, non. Et les psychologues qui travaillent là-dessus sont même arrivés à cette expression-là, dont je l'ai mis ici, qu'ils appellent « the equation », pour dire, comme c'est vraiment le truc. Donc c'est vraiment une autre interprétation de l'implication, qui n'a absolument rien à voir avec l'implication classique, comme on l'apprend en mathématiques. Et si vraiment on raisonne de manière probabiliste, et si c'est comme ça qu'on interprète l'implication, ça peut expliquer pourquoi on est si peu doué avec tous les énoncés logiques où il y a des implications. Et ça, c'est bien le cas. Là, vous avez deux exemples d'un sophisme, sophisme de l'ignorance. C'est-à-dire, vous ne m'avez pas démontré le contraire de quelque chose, donc c'est vrai. Dieu existe puisque vous n'avez pas prouvé que Dieu n'existe pas. Voilà, un premier exemple. Et un deuxième exemple, l'aspartame n'est pas dangereux puisque on n'a pas réussi à prouver le contraire. Dans la vision classique, on dit c'est exactement la même forme de raisonnement. C'est un sophisme, c'est faux, personne ne devrait être convaincu par un truc comme ça. Et pourtant, intuitivement, quand on se pose honnêtement la question, on a beau être sceptique, on se dit quand même que le deuxième est un peu plus convaincant que le premier. Et c'est pas seulement parce qu'on pense peut-être que l'aspartame est sans danger et que Dieu n'existe pas. En fait, si on interprète ça de manière probabiliste et non plus dans la logique classique, on va se demander, est-ce que l'information qui est ici, donc vous n'avez pas prouvé le contraire, ça doit m'amener à conclure que la probabilité qui est ici est élevée ou pas. Et quand on fait le calcul avec les probabilités, le calcul dépend en fait de plusieurs choses, en fait trois. Ça dépend d'abord de la probabilité a priori. C'est-à-dire, est-ce que a priori, je pense que Dieu existe ou pas? Ça joue. Donc c'est normal que ça joue dans un cadre probabiliste, c'est normal que ça joue sur ce que je vais croire après. Alors que dans la vision classique, soit l'argument est juste, et ok, c'est bon, soit il est faux, et je conclue rien du tout. C'est pas comme ça en probabilité. Donc peut-être que vous pensez que Dieu existe, c'est une probabilité faible, et que l'aspartame est sans danger, c'est une probabilité élevée, et ça pourrait expliquer pourquoi le deuxième est plus convaincant que le premier. Ça suffirait, et ce serait rationnel. Dans le cadre de probabilité, ce serait rationnel. C'est ça qui est important. Ça dépend aussi d'autres choses. Ça dépend de la probabilité de l'information, c'est la probabilité, par exemple, que je n'ai pas réussi à prouver le contraire, si Dieu existe, et ça dépend aussi de la probabilité que je n'ai pas réussi à prouver le contraire, si Dieu n'existe pas. Et là encore, si vous regardez, je vais passer plus vite, mais si vous regardez dans ces deux cas-là, ça ne donne pas les mêmes choses. Donc il y a des explications tout à fait rationnelles pour dire que même si c'est exactement le même sophisme, la même forme de raisonnement, en fait, ici, ça doit être plus convaincant que là. C'est pas du tout irrationnel que le deuxième soit plus convaincant que le premier. Et la question maintenant que je me pose, c'est comment ça se fait que les gens ne changent pas d'avis? Par exemple sur l'aspartame. Je prends l'exemple de l'aspartame. Non, je vais prendre un autre exemple. Peut-être avec les abeilles. Voilà, on va faire ça. Voilà, vous avez lu ça, que Einstein a dit, c'est encore un autre sophisme. Comment on dit ça déjà? L'argument d'autorité. Alors Einstein a dit, si les abeilles meurent, l'humanité aussi, pour faire court. Il y a deux choses qui jouent ici. Pour savoir, ça va? Donc j'appelle ça H. Si les abeilles meurent, l'humanité aussi. C'est une hypothèse. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas. Voilà. Et j'apprends que Einstein a dit ça. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vais le redire juste après. Mais pour estimer la probabilité que ça soit vrai, en fait, je vais faire intervenir différentes choses dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, mais il y a quelque chose de plus important qui arrive avant. Si vous avez entendu ça, Einstein a dit « si les abeilles meurent, l'humanité va mourir juste après », peut-être que vous avez douté de ce truc. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive, et j'ai pensé que c'était peut-être pas vrai, comme citation. Et comment je sais si c'est vrai ou pas? En calculant la probabilité que ce soit vrai, que Einstein a dit ça, d'accord? C'est peut-être une vraie citation, peut-être que c'est une citation inventée, Et moi, je vais calculer la probabilité que ce soit une situation, je vais y arriver, vraie ou inventée. Et pour faire ça, j'utilise ce que je sais. Et donc, par exemple, si je ne crois pas que si les abeilles meurent, l'humanité aussi, et si je crois, par contre, que Einstein dit très rarement des bêtises, eh ben, je vais penser que c'est probablement faux. Voilà déjà un premier élément qui peut expliquer pourquoi les gens ne changent pas d'avis. Parce que quand vous leur donnez une information, comme d'habitude, ce n'est pas 0 ou 1. Ce n'est pas soit elle est fausse, soit elle est vraie, et donc ils y croient complètement. C'est en termes de probabilité. Quand vous donnez une information, les gens doutent un peu. Voilà. Typiquement, vous avez vu ça quand vous dites... je reprends l'exemple de l'aspartame, vous pouvez prendre n'importe quoi d'autre. Vous dites qu'il y a eu une grande étude qui a démontré telle chose. Ceux qui sont convaincus que c'est quand même dangereux, l'aspartame, ils vont vous dire, oui, mais c'est peut-être financé par tel lobby, etc. Ils ont plein de bonnes raisons pour dire que la probabilité que l'étude soit bien faite est assez faible. Voilà. Mais ça encore, c'est pas irrationnel. On appelle ça des sophismes, mais c'est pas irrationnel si on raisonne de manière probabiliste. Simplement, on estime la probabilité avec ce qu'on a, et les informations qu'on a, si elles nous disent que l'aspartame, c'est dangereux, comme c'est en contradiction avec l'information qui arrive, c'est que l'information qui arrive est peu fiable. Donc il y a ce premier élément qui joue. Et puis le deuxième élément, c'est ce que je vous ai dit avant, donc la nouvelle probabilité, parce que l'idée c'est ça, j'ai une probabilité a priori que si les abeilles meurent, l'humanité aussi, par exemple j'en sais rien, une probabilité moyenne, je vais mettre à jour ma probabilité, calculer une nouvelle probabilité, en fonction de cette nouvelle information. Et ça va dépendre donc, de la probabilité que j'avais a priori, et puis des deux dont je vous ai parlé, mais on peut passer rapidement là-dessus. Donc, je vais vous montrer sur un graphique ce que ça donne. Là, ne vous effrayez pas. En gros, on va faire simple. Ici, c'est ce qui se passe quand l'argument ou l'information qu'on vous donne n'a rien à voir avec le sujet ou n'est pas du tout convaincant. Okay? Donc l'information que vous donnez, en fait, ne dit pas du tout que si les abeilles meurent, l'humanité va mourir. D'accord? Et à l'autre bout, ici... Vous regardez ici, à l'autre bout de la diagonale, c'est l'inverse. C'est un argument très fort. D'accord ? Et ce qu'il y a ici, c'est la probabilité que j'avais intériorisée avant. Donc ici, par exemple, mon hypothèse que si les abeilles meurent, l'humanité aussi, j'y crois moyen. Si on me donne un argument qui vaut rien du tout, qui va plutôt dans l'autre sens, ça va la faire baisser. Si on me donne un argument excellent, ça va la faire monter. Et on arrive ici. Mais ce qui est intéressant ici, c'est quand vous regardez ce qui se passe... Tout ça toujours très rationnel. Quand on change la probabilité a priori, c'est-à-dire ce que je croyais avant. Là, c'est 0,3, donc j'y crois pas trop. Voilà ce que ça fait. Donc regardez juste au moins ces deux points-là, c'est le plus important. 0,6, j'y croyais plutôt. Et si vous regardez ce qui se passe à 0,9 et à 0,99, vous voyez qu'ici, pour me faire changer d'avis, donc il faut me donner un argument qui va contre l'hypothèse, donc qui est plutôt par là. Et que même comme ça, je ne vais pas beaucoup changer d'avis. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a observé chez les gens, c'est le calcul probabiliste qui dit que ça doit faire ça. C'est-à-dire, si on fait un calcul probabiliste, on doit faire ça, ça doit faire ça. Et donc quelqu'un qui est convaincu que l'aspartame est dangereux, si vous lui donnez un excellent argument que ce n'est pas vrai, c'est normal qu'il ne change pas vraiment d'avis. Et du coup, ça explique aussi pourquoi, quand les gens changent d'avis, ça se passe progressivement. En général, vous n'avez pas... Moi, j'ai changé d'avis sur les OGM quand je suis arrivé à la FIS. Ça m'a pris des mois et des mois. Voilà. Les OGM, c'est dangereux. Puis on m'a donné plein d'excellents arguments. Et c'est pas d'un coup que j'ai dit « Ah ben non, c'est pas dangereux. Ben, » Je me suis dit petit à petit « Ouais, c'est peut-être pas si dangereux que ça. » Puis on change un petit peu. Et ça correspond exactement à ce qui est prévu par cette théorie. Voilà, juste pour finir, une dernière petite remarque. Donc toujours dans cette... optique, nouveau paradigme, le cerveau ne sert pas seulement à faire des calculs de probabilité sur ce qui s'est déjà produit, mais aussi sur ce qui va se produire. Et finalement, il y a plein de psychologues qui disent maintenant que le cerveau, c'est une machine à faire des prédictions. Et un des arguments, je vous en présente un seul, il y en a plein d'autres, mais un des arguments, c'est celui-ci. Vous regardez ce qui se passe dans le cerveau, là, c'est pas très... avec un électroencéphalogramme, pas très parlant, mais je vais vous expliquer. Et vous faites écouter, par exemple, la syllabe « ba ». Donc on regarde l'électroencéphalogramme. Il dit « ba, ba, ba ». La réponse du cerveau décroît très rapidement. Et donc au début, quand on avait observé ça, on s'est dit « c'est parce qu'il y a une habituation ». Exactement comme avec des produits, je ne sais pas quoi. Donc on s'habitue à « ba », du coup ça répond moins. Voilà. Et quelqu'un, un jour, a eu l'idée de faire ba, da, ba, da, ba, ba. Et ce ba-là, il fait remonter, au contraire. C'est-à-dire une réaction plus forte au dernier ba, alors qu'on vient de l'entendre. Et donc, ça ne s'explique pas du tout par un phénomène d'habituation. Et donc, maintenant, ce qu'on dit, pourquoi une réponse forte? Parce qu'en fait, le cerveau fait en permanence des calculs probabilistes pour prédire ce qui va se passer. Et donc, si on a entendu bada, bada, évidemment, on s'attend à ce que ça continue. Et la réponse du cerveau, en fait, ne code pas ce qui se passe, mais le décalage entre ce qui était prévu et ce qui se passe. Donc, comme il avait prévu da et que c'est ba à la place, il y a une réaction beaucoup plus forte. Voilà, j'ai fini.